C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler ruralité, qualité du cadre de vie et tourisme avec le label Village Patrimoine, puisque trois villages de la communauté de communes aux artistes Marquion, Durie, Saunemont et Éterpigny viennent d'obtenir ce label. Un label attribué par un jury exigeant pour une durée de 5 ans. Pour nous expliquer les particularités de ce label Village Patrimoine, retrouvons M. Bavière, maire de Mont-Saint-Éloi et coprésident de l'association nationale Village Patrimoine.
Un label essentiellement basé au départ sur le label du Mont-Saint-Michel, donc qui était une belle référence et qui s'est étendu depuis quelques années dans les Hauts-de-France.
Alors, un label réservé d'abord uniquement pour les villages de moins de 2500 habitants.
Moins de 2500 habitants, puisque c'est la norme. La norme d'un village, c'est normalement 2000, mais 2500, puisqu'il faut aussi avoir des références. On ne peut pas avoir que des villages sans commerce labellisés. Il faut que les gens puissent venir acheter des cartes postales, il faut qu'ils puissent trouver à manger, et ça, on le trouve plus facilement quand même là où il y a un petit peu plus de population.
En quoi ce label est différent de tous les autres labels touristiques qui peuvent aujourd'hui exister ?
Alors, il n'est pas touristique. Voilà, la différence, c'est que ce n'est pas un label touristique. Évidemment, l'obtention du label va amener une attractivité touristique, mais ce n'est pas le fondement du label. Le fondement du label, c'est de fédérer les gens du village sur leur patrimoine, que les gens du village apprennent l'histoire de leur patrimoine dans les villages, puisqu'avec les nouveaux habitants, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Même des habitants du village, des fois, ne se sont pas intéressés et qu'ils s'approprient l'histoire de leur village, l'identité de leur village et leur patrimoine, et ils aident le conseil municipal à le valoriser. Donc, c'est bien une démarche de village.
C'est une ruralité heureuse ?
C'est une ruralité heureuse, d'ailleurs. Tout à l'heure, on en a parlé. Je vais réunir les 29 villages le 11 mars à Hermaville. Et le thème, c'est « Il est où le bonheur ? Il est chez nous, dans nos villages patrimoine. »
Les 29 villages, c'est 29 villages de quel territoire ?
Alors, il y a La Rajoie, aux artistes Marquion, ici. Enfin, c'est le grand La Rajoie. Et puis, essentiellement, les Dinois et le Saint-Paulois. Voilà, on est 29 villages labellisés sur ce territoire-là.
Ce label, il peut être accordé du moment où la commune en fait la demande conjointement avec des habitants.
Voilà, il faut que la commune, le conseil municipal ait une délibération et qu'il y ait une association qui a trait au patrimoine qui existe déjà dans le village ou qui se constitue pour accompagner le conseil municipal sur sa volonté de développer le label.
C'est pas un label accordé facilement. Il y a un vrai jury qui va passer, qui va visiter, qui va regarder si différents items sont remplis.
Voilà, il y a des critères, il y a 6 règles d'or, hein, il faut qu'elles soient remplies. Tout à l'heure, lors de notre réunion, les villages labellisés ici dans votre secteur des artistes Marquion l'ont dit, c'est un an de préparation, un dossier pour pouvoir le faire. Et la visite du jury, vous avez la directrice de Pas-de-Calais Tourisme, vous avez un représentant du CAIE, un représentant du CPIE. Non, c'est pas parce qu'on candidate qu'on va l'avoir.
On oublie parfois la valeur justement de ce patrimoine avec lequel on a l'habitude de vivre jusqu'à l'ignorer.
Mais oui, et c'est ça qu'il faut se réapproprier. Les gens le demandent, surtout avec le Covid. Les gens reviennent dans les villages. Les gens avaient le droit de marcher une heure. Ils ont découvert autour de chez eux. Et on les voit revenir. Il y a tellement de belles choses tout autour de nous que ça ne sert à rien d'aller à des kilomètres.
Alors, vous évoquez, parce qu'on parle quand même de tourisme, parce que derrière, il y a un développement qui va pouvoir se créer, un développement économique par le biais du tourisme qui peut éventuellement être généré par l'obtention de ce label.
Écoutez, Mont-Saint-Éloi, je n'aime pas citer mon village, mais il est connu, Mont-Saint-Éloi, il était connu par ses tours. Les gens me disent, mais pourquoi tu as besoin d'un label? Ben oui, on a besoin d'un label. Depuis qu'on a le label Village Patrimoine, on a aussi la Via Francis Génin qui passe. Ben, c'est ouvert 3 gîtes et un restaurant. Hein. Donc forcément, ça attire des visiteurs. Et forcément, ben, les visiteurs, les gens qui sont dégourdis, ils se mettent pour accueillir. Et celui qui n'a pas d'accueil structuré comme ça, ben, il faut au moins qu'il ait une aire de pique-nique, qu'il ait une table de pique-nique, que les gens qui se baladent puissent se restaurer aussi, puisque c'est le but des promeneurs.
Ce qui explique que ce label il est plutôt destiné à Dury, Éterpigny et Saudemont sur le territoire, plutôt que sur le littoral, je ne sais pas, à Merlimont et à Stella-Plage.
Ah oui, non, les villages dortoirs ne sont pas candidats au label Village Patrimoine. C'est bien la vie intérieure du village faite par ses habitants, avec le soutien des communautés de communes, évidemment, avec le soutien des offices de tourisme qui fait la vie. Mais non, les villes dortoirs n'ont pas de chance d'être labellisées, puisqu'elles n'ont pas besoin de ça déjà. Disons qu'elles n'ont pas besoin de ça, puis ça viendrait nous dénaturer.
Dans le départ du Pas-de-Calais, si on s'intéresse uniquement au Pas-de-Calais, c'est le département qui a le plus de villages.
Oui, 29 villages. On a le plus de villages.
Mais c'est également le département qui, de façon générale, a le plus de communes.
Ben, il a le plus de communes. Et puis, vous prenez aux Artis-Marquion, vous prenez le Sud-Artois, vous prenez le Saint-Paulois, vous prenez les Dinois. Vous prenez les campagnes de l'Artois, là-bas, autour d'Avesnes-le-Comte, il n'y a que des villages. Il n'y a que des villages. Donc, évidemment, c'est un territoire où ça peut se développer. Des communes de 2500 habitants, vous prenez Édinois, Saint-Paulois, là-bas, Vallée d'Opale, bah, c'est tous les villages qui pourraient être candidats. Les campagnes de l'Artois, c'est pareil. Avesnes-le-Comte et compagnie, c'est tous les villages qui font moins de 2500 habitants. Donc, c'est sûr que là, il y a un vivier, hein, il y a du travail.
Alors, le label et l'organisation autour de ce label, justement, c'est également la façon d'accompagner les néo-ruraux dans leur nouvelle vie.
Absolument, puisque les documents d'accueil des nouveaux sont importants. Et si les villages ne les intègrent pas, ils resteront, comme on entend trop souvent, à part de la vie du village. Et ils seront traités de bobos. Non, on ne veut pas de bobos. Il faut que les nouveaux y viennent et ils s'intègrent.
Quand l'habitant commence à s'intéresser au patrimoine, c'est une façon également de se dire ben, « Tiens, demain, tu pourrais peut-être rentrer en responsabilité dans l'administration et la gestion de cette commune. » On dit parfois, aujourd'hui, on manque de vocation à chaque élection municipale. On dit « Il n'y a plus personne qui veut se porter volontaire. » C'est peut-être un premier pas également vers cette citoyenneté.
Ça peut aussi être un premier pas, comme vous le dites, mais c'est aussi surtout la volonté de s'inscrire, même si ce n'est pas pour prendre un mandat électif, puisque au sein de l'association qui accompagne. Voilà. Et puis, il faut aussi, dans le cahier des charges, qu'on ait un ou plusieurs guides villageois. Ailleurs, je dis, ça s'appelle les gréteurs ou ça s'appelle les ambassadeurs. Nous, c'est des guides villageois. Donc, un ou plusieurs habitants du village qui s'inscrivent pour faire découvrir son village aux habitants et aux visiteurs.
Ils sont formés, justement, ces guides. Ils ont la connaissance de la vie du village, mais on ne devient pas forcément comme ça guide.
Ils vont être formés, puisque les dernières labellisations sont du mois de novembre, ici il y a 3-4 mois, donc, et il est prévu dans le programme des formations pour les guides villageois. Mais aujourd'hui, les gens qui le font, c'est bénévole. Tout le monde est bénévole. Hein. Le président, le trésorier, tout le monde est bénévole. Et les guides villageois sont bénévoles. Et ils sont très contents de participer à la vie du village aussi de cette façon-là. Hein.
Et enfin, quelques mots sur un projet, Village en Seine.
Alors, Village en Seine, c'était l'Artois. Un dimanche par mois, chaque village mettait en scène son village. On l'a fait pendant 3 ans. Ailleurs, ici, j'ai entendu tout à l'heure que c'était les samedis dans les villages.
Samedi aux artistes. Ouais.
Samedi aux artistes. Du côté de Vallée d'Opale, c'est le vendredi. Et ce qui est agréable, c'est qu'il n'y avait pas la fête générale. Chaque village faisait une fête un week-end ou une journée particulière. Donc ça permet là aussi d'échanger entre les villages et d'aller chez le voisin, d'aller voir ce qui ne se fait pas non plus toujours. Voilà.
Vous êtes un coprésident heureux aujourd'hui ?
Alors écoutez, dans notre département, on a pratiquement doublé le nombre de villages ici. On était 16, on est 29, donc à peu de choses près, on a doublé nos villages. C'est en gros cours de développement. Aux Artis-Marquion, c'est les 3 premiers aujourd'hui, donc je pense que ça va faire des envies, des envieux, hein, c'est le but. Et puis après, les secteurs, je vous l'ai dit, les campagnes de l'Artois, ont que des villages, donc ils peuvent que prospérer. Vallée d'Opale, eux, sont à fond sur le sujet. Et puis aussi, On a un gros soutien des Normands, hein, puisqu'ils sont à peu près 24 ou 25 villages là-bas, les Normands. Donc c'est le Mont-Saint-Michel, c'est quand même une référence pour nous. Et puis le Mont-Saint-Michel lui-même va candidater à notre label, alors qu'il n'en a pas vraiment besoin, même si on a notre siège d'association à la mairie du Mont-Saint-Michel. Il n'en a pas vraiment besoin, il est reconnu à l'UNESCO. Non, mais ils veulent montrer qu'il y a aussi, en dehors des structures commerciales, il y a aussi un groupe de personnes, ils sont une cinquantaine, je crois, qui vivent là tous les jours et qui supportent les contraintes du tourisme de masse, mais qui veulent montrer qu'ils existent aussi, qu'ils ont des actions, des machins, qui sont moins médiatisés. Donc si vous voulez, oui, que le Mont-Saint-Michel soit fait là, c'est président heureux, que aux artistes Marquion, ils commencent à développer, c'est super, parce que ça n'a de valeur que si on est en réseau. Hein. Un gars tout seul, il ne va pas tirer, hein. Donc il faut qu'il y ait un réseau.
Jean-Pierre Bavière, maire de Mont-Saint-Éloi et coprésident de l'association nationale Village Patrimoine, un label dont on parlera dans un instant avec Nicolas Desfachel, le président d'Arras Pays d'Artois Tourisme.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Elle soudain me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix.
Radio Scarpe Sensée, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Et aujourd'hui, on parle du label Village Patrimoine, puisque les communes de Dury, Sedemont et Éterpigny, de la communauté de communes aux artistes Marquion, viennent d'obtenir ce label Village Patrimoine. Pour nous en parler, on retrouve Nicolas Desfachel, le président d'Arras Pays d'Artois Tourisme.
C'est le lancement d'une véritable démarche sur le territoire, les villages patrimoine. Et monsieur le maire de Saumont en est un des acteurs. Il est administrateur de la société publique locale. Alors, en gros, c'est l'office du tourisme du Pays d'Artois. Et aux artistes Marquion est un des membres éminents de cet office du tourisme. Et ici, nous avons une dynamique, effectivement, un petit peu... Alors, c'est assez rural, mais je pense que c'est surtout un témoignage de la qualité de vie que nous avons sur le territoire d'aux artistes Marquion.
Arras, les Boves, les Places, le Beffroi, Carrière Wellington, ça suffit pas, ça peut pas aller se limiter aux frontières d'Arras, le tourisme.
Ah non, complètement. Le tourisme, c'est à la fois le côté patrimonial, vous avez cité certains lieux emblématiques, c'est le côté mémoriel, parce que c'est notre histoire, mais c'est aussi, comme je le disais, notre qualité de vie. Et donc, c'est l'ensemble du territoire qui est porteur de cette qualité de vie. On sort d'une période de pandémie où on a bien compris que les gens souhaitaient retourner à du bien-être, à de la nature, à de la proximité. Et ici, on a tout ce qu'il faut. On a les marais, on a l'eau, on a le canal, on a les rivières, on a une belle campagne. Et donc, de plus en plus, on a des personnes qui sont à la recherche de ceci. Alors, pour y vivre, pour y habiter, pour y travailler, mais aussi en matière de tourisme, parce qu'on est très proche de tout. On est ici à une heure de Londres, à une heure de Bruxelles, à une heure de Paris, donc vous voyez l'enjeu. Donc le territoire est fantastique pour ça.
Et à 30 minutes du Louvre-Lens, est-ce que ça se regarde ça également dans une perspective au-delà également des frontières de l'Arrajois ?
Absolument. On est à 30 minutes du Louvre-Lens, on est sur la route de la mémoire entre les Flandres et la Somme. Et donc, évidemment, on va connecter beaucoup de gens. Et puis, on a aussi un chantier sur le territoire qui va être d'une autre nature touristique, qui est le canal Seine-Nord, qui va être l'occasion aujourd'hui de montrer à la fois ce qui se passe quand on réalise un chantier du siècle, d'une envergure quand même assez exceptionnelle. Et en même temps, une fois que le canal sera réalisé, avec les ouvrages, un nouvel aménagement paysager du territoire, puisqu'on va avoir... Quand vous imaginez avoir un pont canal, c'est-à-dire voir passer des péniches au-dessus de l'autoroute, je peux vous dire que c'est assez rare quand même. Hein.
Alors tout ça, évidemment, ça va modifier fortement le paysage. Faut également réapprendre à l'habitant à connaître son cadre de vie, son histoire, son patrimoine, y compris le patrimoine naturel.
Oui, puis il faut réapprendre à redécouvrir ce qui est à côté de chez nous. Et ça, c'est le boulot de la SPL, de l'Office du Tourisme. C'est vrai que parfois, les Arrajois passent devant le Beffroi, mais n'y montent pas. Et ben nous, notre job, c'est de faire en sorte que, d'abord, les habitants du territoire puissent redécouvrir toute la richesse du patrimoine local, puissent prendre le temps de redécouvrir ce qui se passe à côté de chez eux. Et c'est pour ça qu'on va soutenir des initiatives comme celle d'aujourd'hui à Saumont, parce que la communauté de communes, Pierre Georget, le maire de Saumont, Laurent Turpin... font le maximum pour que chacun ici autour puisse redécouvrir cette richesse qui est le patrimoine de tous et qui doit donc être partagée par tous et dont on doit être très fier.
Vous insistez beaucoup sur cette fierté aujourd'hui. Il faut se sentir fier d'appartenir à un territoire et de véhiculer quoi, des valeurs à travers ça, une appartenance.
Oui, c'est les valeurs de notre... En fait, nous sommes des gens du Nord, donc des gens humbles. Voilà, et donc on est modeste par rapport à ce qu'on peut avoir, par rapport à ce qu'on peut faire. Ça, ce sont nos valeurs. Et effectivement, cette fierté, ben ouais, il faut la revendiquer parce que ici c'est beau, chez nous, on a envie d'y être, quoi. On a envie de partager de bonnes bières parce qu'on a des bons brasseurs. On a une gastronomie aussi qui se développe. Donc tout ça, il faut le mettre en avant.
Combien de villages vont pouvoir prétendre à ce label village patrimoine dans l'Arrajois ? Vous avez une idée ? Vous avez déjà fait un recensement ?
Alors, ouais, on est sur une première vague, donc il y a plusieurs dispositifs de labels. Mais en gros, on va être sur le territoire de l'Office du Tourisme. À terme, je pense qu'on sera une trentaine, une quarantaine, ce qui est déjà bien, quoi. Ce qui est déjà bien.
Avec, à chaque fois, des particularités dans ces villages.
Ouais, enfin, la particularité commune, c'est, je pense, la convivialité. Ça, c'est déjà le point commun à tous. Et puis après, effectivement, ça dépend à quel endroit du territoire. Donc là, forcément, on retrouvera un patrimoine un petit peu différent ou un contexte différent. Mais c'est d'abord l'envie d'être ensemble et de faire ensemble. Et ça, c'est le vivre ensemble, c'est important chez nous. Il faut savoir le partager.
Et enfin, dernière question, vous évoquiez tout à l'heure l'ancien président du Conseil général à l'époque, Dominique Dupilet, qui a fait beaucoup pour l'image du Pas-de-Calais, le tourisme, en disant on est une terre de tourisme et il faut qu'on en prenne conscience. Ce n'est pas uniquement sur le littoral, parce que là, il savait de quoi il parlait, que ça se joue, c'est également à l'intérieur des terres.
Bien sûr, il avait une vision très précise, effectivement, de l'aménagement du territoire et du développement touristique. Il avait été président, d'ailleurs, de l'agence départementale de réservation touristique, ce qu'on appelait l'office du tourisme départemental à l'époque. Et un jour, je citais en anecdote, il avait décidé de mettre, par exemple, dans le métro parisien, des grandes affiches du Pas-de-Calais, pas que de la Côte d'Opale, hein, de tous les endroits du Pas-de-Calais, en me disant, tu sais, c'est comme ça, tous les gens qui viennent du Pas-de-Calais, tous les jours, quand ils rentreront dans le métro, ils verront des images de chez eux et ils diront, ça, je suis fier, je suis chez moi. Vous voyez, bah, c'est une façon de mettre en valeur l'ensemble de nos atouts touristiques et d'attractivité.
Et enfin, c'est un ressort économique également important, le tourisme.
Ah oui, évidemment. Alors, sur tous les plans, et le premier, c'est d'abord sur la proximité, c'est-à-dire que ça permet aussi d'amener, quand on amène des gens dans un village, au fur et à mesure, ça crée un cercle vertueux autour de l'activité commerciale. Ça peut démarrer par la boulangerie, par exemple, hein, etc., le bistrot, le resto, et tout ça. Et je pense que le fait d'amener aussi des touristes va susciter des vocations. Et on voit bien qu'on est dans une phase où les gens cherchent à se reconvertir professionnellement avec des nouveaux projets. Et ici, on a toutes les solutions pour pouvoir leur apporter voilà, une façon de faire autrement et d'apporter aux habitants aussi du territoire des nouveaux services qui vont compléter ce qui existe déjà. Donc c'est vrai que sur le plan économique, c'est une grosse richesse.
Paris 2024, ça relève également de l'intérêt économique touristique. On a une carte à jouer. Arras, c'est la banlieue de Paris. Enfin, Paris est la banlieue d'Arras.
Oui, on peut le dire comme ça. On était déjà la banlieue de Londres. Donc on peut bien être la banlieue de Paris. Non, c'est vrai, vous avez raison, tout à fait. D'ailleurs, avant d'être à Saudemont ce matin, j'étais avec Jean Galfione. Voilà, qui était ancien champion olympique de saut à la perche, qui faisait un détour par Arras et qui rencontrait des enfants dans une école à Arras. Et c'est vrai que le territoire est une terre des Jeux. Et donc nous sommes tout à fait prêts à accueillir les Jeux olympiques de Paris 2024. Et même juste avant la Coupe du monde de rugby, permettrait à un fan de rugby de pouvoir le citer, parce qu'en 2023, ça sera quand même l'occasion. Et surtout qu'on a une équipe de France qui vient de battre la Nouvelle-Zélande magnifiquement. Et donc, ça va être l'occasion pour le territoire d'accueillir, là aussi, le monde entier. Alors, d'accueillir des délégations sportives dans nos équipements, y compris sur ce qui est du paralympique, parce qu'aujourd'hui, les équipements du territoire sont adaptés pour la plupart au sport handisport, au sport adapté, et en même temps d'accueillir sur le plan touristique les supporters. Parce que, évidemment, ça sera peut-être plus facile pour eux de se loger ici sur le territoire. Quand vous venez des Samoa, d'Ouzbékistan, ou de Nouvelle-Zélande, Arras, Lens, Paris, c'est la même chose, hein, ils font ça tous les jours, hein, donc c'est clair. Donc le fait de les accueillir ici sur le territoire, de les héberger sur le territoire, ils iront voir les manifestations sportives, on est à une heure de Paris, donc ça va vite hein, pour eux, et revenir ici pour profiter des moments de détente, de nos restaurants, de nos espaces, etc. Donc c'est ça l'enjeu, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est notre prochain challenge.
C'est le travail de 2023, ça ?
Absolument, c'est même le travail d'hier, d'aujourd'hui et encore plus de demain, mais on y travaille déjà depuis quelques mois avec les présidents des Interco.
Nicolas Defachel, président d'Arras Pays d'Artois Tourisme, aujourd'hui pour évoquer le label Village Patrimoine, puisque Dury, Saudemont et Éterpigny, sur la communauté de communes aux artistes Marquion, ont obtenu ce label et nous serons dans un instant justement avec monsieur le maire de Saudemont dans La Puce à l'Oreille.
Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Cinq chômeurs se lamenter sur notre malheur en se disant qu'on se tape bien. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Elle descendait de la montagne, là qu'elle nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Qu'elle nous prend par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille. Elle nous fait le coup du zipline. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Ah ben nous on était cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin soin. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. On eut passé la ferraille, elle nous fit fumer de sa paille. Sacré bon Dieu que c'était bien, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Plus question de chercher du travail. Pédaler dans les nuages au milieu des petits lapins. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin.
Tiefen, la fille du coupeur de juin sur Radio Scarpe Sensée, la puce à l'oreille. Aujourd'hui, pour vous parler du label Village Patrimoine, puisque trois communes de la communauté de communes aux artistes Marquion, les villages de Durie, Saudemont et Terpigny, viennent d'obtenir ce label Village Patrimoine. Et pour nous en parler, direction Saudemont, avec Laurent Turpin, maire de la commune. Il est heureux, le maire de Saudemont?
Ah ben, il est très heureux quand il peut accueillir beaucoup de visiteurs qui viennent voir la beauté de son village, forcément.
Hein ? On va le situer, ce village, oui. En nombre d'habitants.
Alors, nombre d'habitants, 450. Et ensuite, la situation géographique est très simple, puisque c'est pile dans le triangle Arras-Cambrai-Douai. Au milieu.
450 habitants, c'est une dimension qui fait qu'on se sent bien. C'est suffisant? Il y a des ambitions? Il en faudrait davantage?
Non, notre ambition, c'est plutôt de restaurer le mieux vivre et le mieux être dans le village plutôt que de l'agrandir. Les conditions d'agrandissement ne sont pas très très simples aujourd'hui. Et on est plutôt, nous, dans un cadre de revégétalisation et de dynamisme, à la fois économique, mais ça, je vais vous en parler si vous voulez. Mais c'est surtout qu'on voudrait que les gens se réapproprient vraiment leur village et vivent mieux et bien, bien et mieux.
Faire de la ruralité votre force.
Ah, ça, c'est une force énorme et on tient à notre ruralité par-dessus tout, même si on travaille énormément également sur la modernité. Et ruralité et modernité sont vraiment les deux mamelles, on va dire, de notre développement.
On est là en train d'enregistrer dans cette église. Alors, l'église au centre du village, forcément, oui. Au-delà du monument, qu'est-ce qu'elle représente?
Elle représente le village parce que le clocher du XIIe siècle, monument historique, qui est le seul clocher du coin de ne pas avoir été détruit pendant la guerre 14-18, parce que de ce clocher, l'architecte des bâtiments de France, forcément, qui intervient sur toute demande de permis de construire, dans un périmètre de 500 mètres, et que le village fait un périmètre de 500 mètres autour de l'église. Donc ça représente l'architecture et l'identité du village.
c'est lui qui guide.
Bah oui, forcément, mais en même temps, qui nous garantit comme ça une homogénéité et donc de pouvoir ensuite développer l'intérêt touristique du coin.
Des vitraux également remarquables.
Des vitraux paramètres verriers de l'école de Nancy, oui, de 1929. Et dont un vitraux d'ailleurs très très étonnant parce qu'il figure l'église de Saulmont. C'est un vitrail qui a été offert par les paroissiens.
Et puis des statues et les anges de Saulmont.
Alors les anges, nous on n'a qu'une réplique hein, maintenant. les anges, ils sont au musée des Beaux-Arts d'Arras. Mais effectivement, on a une réplique à l'identique qui a été élaborée par les ateliers du Louvre qui sont dans une des chapelles du village, oui. Puisqu'on a quatre chapelles en fait à chacune des entrées du village.
Aujourd'hui, votre village est éligible à un label.
Oui, label Village Patrimoine, absolument. Nous avons fait toutes les démarches et répondu également à leur demande première en termes de signalétique, par exemple. Effectivement, le jury est venu et il s'est prononcé. Donc, bon, tout devrait bien aller. On en reparlera au mois de janvier.
Alors, ici, on est sur le territoire de la communauté de communes aux artistes marqués. On est juste à côté de la communauté urbaine d'Arras.
Oui.
Et c'est pour ça que eh bien, le tourisme, ça se développe en collaboration avec la CUA et notamment la SPL, la société locale,
publique locale de tourisme,
enfin l'office de tourisme.
Les artistes marqués est actionnaire, parce qu'en réalité, c'est effectivement une société, mais qui a pour vocation le développement et la promotion du tourisme sur l'ensemble des territoires qui y figurent. Donc il y a aussi Sud-Artois, il y a les campagnes de l'Artois, Arras, la communauté urbaine et aux artistes marquions.
Arras, c'est une chance pour Saulmont ou Saulmont est une chance pour Arras ?
Et les deux, mon capitaine. Les deux, non, franchement, parce que Arras, effectivement, est une marque très, très forte, mais qui a besoin aussi de s'extérioriser parce que sinon, elle reste enfermée sur elle-même. Et effectivement, Saulmont bénéficie de l'afflux des visiteurs, notamment étrangers, qui viennent à Arras en priorité, mais qui vont pouvoir se loger bientôt beaucoup mieux sur le territoire et découvrir notre patrimoine qu'on va de mieux en mieux valoriser.
Une autre forme de tourisme, parce que déjà, le tourisme de mémoire, le travail a été fait. Aujourd'hui, c'est reconnu, les sentiers existent, c'est repéré. La grande opération, ça a été les carrières Wellington qui ont rappelé tout ce passé et puis qui a bénéficié à l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il y a une autre forme de tourisme, un autre rapport à l'environnement qu'on peut mettre également en avant, et pour les touristes et pour les locaux.
Oui, alors on a déjà l'ensemble des chemins de randonnée, on a un maillage extraordinaire sur le territoire, ça c'est vrai. Ici, on a la chance d'avoir de nombreux marais qui, à la fois pour les pêcheurs et les visiteurs, et qui d'ailleurs amènent une géographie que les gens ne connaissent pas forcément. Ça, c'est très intéressant de voir qu'ils découvrent avec émerveillement ces endroits. Et puis, effectivement, vous parliez de Village Patrimoine. Si vous voulez, on va être quelques-uns à être labellisés, mais au fur et à mesure du temps, on va être plus nombreux. L'idée étant de créer ce que j'appelle un espèce de chemin du patrimoine, qui serait une alternative aux routes départementales et qui serait des alternatives de circulation douce.
Et tout ça avec la participation et la collaboration des habitants qui tiennent une partie de cette mémoire.
Absolument. Alors en plus, il se trouve qu'à Saulmont, aux alentours, on a la chance d'avoir une équipe de personnes, de passionnés qui ont travaillé sur toute cette histoire, qui ont recoupé énormément d'anecdotes et l'ensemble des événements du village avec les personnages, les lieux, etc. Et ça nous aide beaucoup parce que ça permet aussi la définition de ce qu'on appelle des espèces de guides villageois, c'est-à-dire des gens qui accueillent les visiteurs pour leur expliquer ce qu'est Saulmont et ce qu'il était et ce qu'il sera.
Vous habitez Saulmont depuis combien de temps ?
Alors moi depuis 4-5 ans, mais en réalité j'habite dans la maison familiale qu'on a dans la maison depuis la fin du 19e siècle.
Vous avez certainement en mémoire ces avions de Cambrai et Pignois qui survolaient le territoire.
Oui.
Aujourd'hui on ne les entend plus, il se passe autre chose, il évolue ce territoire.
Ben, il évolue comme il devait évoluer, c'est-à-dire que il y a eu des pertes d'emplois, il y a eu des fermetures d'usines, il y a eu des fermetures de bases, et derrière il y a une énorme dynamique qui se crée pour la recomposition et la redistribution du paysage économique.
Ça veut dire que de nouveaux investisseurs arrivent, ça veut dire également que de nouveaux habitants peuvent arriver et que ces habitants, il faut savoir les accueillir et leur donner le cadre de vie le plus agréable possible.
Ah, c'est ça, parce qu'en plus, ils ont forcément d'autres idées. Mais je crois qu'on assiste aujourd'hui comme à un retour vers la ruralité. Donc on a, nous, les moyens de les accueillir. Et puis la chaleur humaine, ça fait quand même partie de nos gènes, hein, ici. Hein.
Et à côté d'Yvalet, donc c'est ce qu'on évoquait, la reconversion de la base aérienne, arrive également le chantier du siècle, le canal Seine-Nord-Europe, avec un ouvrage d'art tout à fait remarquable à quelques kilomètres d'ici. Et ça aussi, eh bien, ça va non seulement marquer le territoire, son évolution, il y aura peut-être un travail d'histoire à faire là-dessus, justement, pour capter tout de suite ces moments, mais ce sera également peut-être quelque chose qui pourra faire venir du monde dans vos communes pour aller et venir la découvrir.
Oui, vous parlez de l'écluse Oisil-Verger.
Tout à fait.
Oui, écluse qui en plus est définie au départ pour être un lieu touristique. Conçu comme ça, on se bat également pour qu'autour de cette écluse puisse avoir des lieux d'accueil pour les visiteurs. Et effectivement, quand je parlais du chemin du patrimoine tout à l'heure, je pense que Oisil-Verger en fait pleinement partie. On peut aujourd'hui identifier des endroits clés. Il y a l'écluse de Oisil-Verger, il y a Écolande à Paluel. Et puis il y a l'église de Saudemont, évidemment. Mais voilà, on arrive aujourd'hui, si vous voulez, je pense que l'écluse de Oisil-Verger va être effectivement un incontournable pour beaucoup de personnes, mais qui chercheront justement à faire du tourisme dans un cadre de mobilité doux. C'est ça qui est important. Et donc il faut leur offrir les moyens de pouvoir y vivre, s'y restaurer, etc., quoi.
Pour les plus anciens, on se souvient des fontinettes et de l'attrait qu'avait cette écluse, ascenseur à bateau.
Bah oui, puis on a tous pris un bateau pour aller dessus. Absolument, non, mais là on aura... Alors là en plus il va y avoir plusieurs choses, parce qu'il va y avoir un bout du canal du Nord qui va être conservé, donc qui va permettre aussi du développement touristique et nautique sans doute. Et puis, là pour le coup je ne sais pas si on pourra aller sur un bateau pour cette écluse qui va être monumentale, mais en tout cas on aura une zone d'observation importante à l'intérieur, puisqu'elle est totalement automatisée. Hein.
Enfin, dernière question, et je vais vous laisser retrouver ensuite vos invités. Quand on a un bâtiment tel que cette église classée, c'est un coût pour la commune. Et est-ce qu'on ose la laisser ouverte fréquemment pour que justement les visiteurs puissent en profiter, ou ça pose toujours problème les ouvertures des églises?
C'est une bonne question. D'abord, l'église n'est pas classée, c'est le clocher qui est classé. Mais bon, ça ne change pas grand-chose parce qu'effectivement, les vitraux, etc. L'église, pour l'instant, n'est ouverte que sur rendez-vous, mais on travaille effectivement à voir comment est-ce qu'on pourrait laisser les visiteurs y accéder le plus possible. Bon, ça demande surtout des soucis logistiques, de personnes qui viennent ouvrir, fermer, etc. Moi, j'ai pas peur. Je crois que l'association Église Ouverte a justement fait une étude montrant qu'il n'y avait pas plus de dégradation ou de vol quand les églises étaient ouvertes que quand elles étaient fermées. Donc après, il faut avoir confiance, et moi, j'ai plutôt confiance dans les gens, donc voilà.
Laurent Turpin, maire de Saudemont, village labellisé, village patrimoine. Dans un instant, direction Éterpigny, l'autre village qui, avec Durie aussi, a reçu ce label. Et nous fouillerons dans nos archives pour nous plonger dans l'histoire du Clos Barthélémy, autrement dit le château d'Éterpigny.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé.
Ya ven que la yes, lo pegué el punchacho, lo pegué pa' San Gumón, lo pegué pa' San Bucón, lo pegué en Son Jo. Pa' volvo un mijevo, cuya es un mijeo, pa' un conche que es. Inche buchón, inchón obla, intelicón, incón dobla, para puabilo hue. John Ugabun Bull, the Chong Wabiso, Bubi Bell, Tomuto Arae, Agaba Pay, Niwe, Awana Mong Momasona, Aga Hoyawe, Abobo Lep, Dil, Now we let me kick him mange. Tunalina Nanole Tiwe Kunde Kunde Ke won Kiki Sumbolio Bege Lipunza Chong No Bege Masangumon No Bege Sambukon No Bege Son Hong Maligandile Maleng Di Maleng Di Menu Nule Kene Di Nyangana Le Nyangana Di Menu Nunyek Bene Kinche Wanyu Ba sol sol ves, ba sol sol bon, ba un me
anyway. The journal, the bumble, the chungo, we so, who we pel, so muto arae, agaba baby, where? Egna nae, he kel, zipunda. Abomolem, dudum, 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 Tonalina, tona, tona bichome, tonalina, tonalina. Mjeba ibe ubi sal, tona e, uga wupulio e, atu atu e. Tobi tembe, ubi tembe me, oya be malonga mo, ubi le ubi sombe kai, oya me atu e, to tona.
Avec à l'instant Big Bassim dans La Puce à l'oreille. La Puce à l'oreille aujourd'hui consacrée au label Village Patrimoine, puisque les communes de Dury, Saudemont et Éterpigny, sur la communauté de communes aux artistes Marquion, viennent de recevoir ce label. L'occasion pour nous de plonger dans nos archives et l'on remonte le temps. Nous sommes en octobre 2019 et Valentin Leplan vous emmène au Clos Barthélémy, le château d'Éterpigny.
Donc, je suis Arnaud Broutel, je suis audomarois et arrajois d'adoption depuis 2017, début 2017, puisque nous avons acheté le château d'Éterpigny en 2017. Et nous y avons fait 18 mois de travaux. Et donc l'activité a commencé depuis juin 2018.
Alors dites-moi, c'est quoi ce projet d'ailleurs que vous avez à Éterpigny ?
Eh bien, nous avons pour projet d'avoir déjà, nous avons la passion des travaux, de la décoration et également de tout ce qui est, je vais pas dire l'art de recevoir, mais le plaisir de recevoir. Donc, à mon âge, 55 ans, l'heure était venue de me faire plaisir, de finir ma carrière professionnelle en me faisant plaisir. Et donc, voilà, racheter ce lieu a été une aubaine et aussi un grand pari, parce que tant les travaux étaient denses, tant le présent et le futur dans le travail sont effectivement denses. Mais voilà, tout le plaisir est là aujourd'hui, après ces travaux effectués et nos premières réceptions qui arrivent.
Alors, comment on choisit ce lieu, cet endroit de se positionner ici, finalement ?
Bah, disons que c'était une longue recherche, parce que nous avons un cahier des charges assez pointu, parce que nous ne voulons pas un endroit trop éloigné des grands axes routiers, on ne voulait pas un endroit trop près de la route, enfin on avait quand même, puis on voulait aussi le coup de cœur, et donc c'est vrai que quand ici ça a été mis en vente, voilà, le coup de cœur a été quasi immédiat, et donc voilà, ça s'est fait très rapidement. On était sur un autre lieu auparavant qui ne s'est pas fait pour des raisons XY, et on a visité également d'autres endroits qui ne convenaient pas pour diverses raisons, mais ici voilà, tout s'est bien goupillé, aucune porte s'est fermée, donc voilà.
Comment vous résumeriez finalement l'état d'esprit ? Parce qu'on remarque que c'est finalement un mélange d'influences, notamment en termes de décoration ici.
Disons que en termes de décoration, c'est notre cinquième maison, et c'est pour ça tout à l'heure je disais beaucoup de travaux, 25 ans de travaux. Donc je pense que ce que nous avons voulu d'abord faire avant tout, c'est peut-être se faire plaisir. Alors ça va peut-être paraître égoïste, mais c'est pas du tout égoïste. Je pense qu'en matière de déco, il faut d'abord faire ce que l'on aime pour espérer que ça plaise aux autres. Parce que faire quelque chose en matière de déco pour faire un peu comme tout le monde, je pense, ce n'est que mon petit avis, je pense que, en tout cas, c'était pas notre souhait. Donc... faire un endroit qui nous ressemble, qui nous ressemblait, était pour nous le plus important. Et donc voilà, après on a osé quelques notes un peu fantasques, on va dire, notamment ce salon qui est tout noir avec quelques œuvres d'art, le mot est bien fort, mais voilà, on a osé quelques notes. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à être dans un château avec des vieux meubles, avec qui est très beau, attention, hein, je ne critique pas du tout, mais c'est pas ce qu'on voulait faire. Donc voilà, je pense que, en tout cas, nous, notre pari a été, je vais pas dire gagné parce que ça pourrait paraître prétentieux, c'est pas du tout prétentieux, mais on est content du résultat et je pense que on a de bons retours.
Alors vis-à-vis justement de l'environnement, finalement de la communauté de communes, etc., comment était reçu le projet?
Déjà, dans un premier temps, nous sommes rapprochés de la mairie. Nous avons rencontré M. Basse, donc le maire d'Éterpigny, pour déjà expliquer notre projet. On a reçu un très grand enthousiasme de M. le maire. Et puis après, voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait alentour. C'est vrai qu'il y a quand même de beaux endroits. Il y a quand même pas mal de beaux lieux de réception également. Voilà, nous, il y avait ce petit côté peut-être un petit peu différent dans le sens où nous avons notre orangerie qui est derrière le château, qui peut accueillir jusque 400 personnes. Donc c'était un petit peu également le côté différent, si vous voulez. Maintenant, on a été très bien accueillis. D'ailleurs, aujourd'hui, on est la preuve, puisque Arras Pays d'Artois nous a fait le plaisir et l'honneur de venir faire leur conférence de presse ici. Donc après, avec aux artistes Marquion, nous avons une excellente collaboration également avec toute l'équipe de Monsieur Georget. Et puis après, tous les acteurs sont les bienvenus, forcément. Je ne vais pas dire le contraire. En ce qui concerne les réunions, les conventions, les séminaires, voilà, nous accueillons toutes sortes d'événements et tout type d'entreprises dédiées justement à un événement professionnel.
Et j'ai envie de dire, quand on est sur un village aussi concentré finalement, puisque c'est pas très étendu, c'est pas très peuplé, Éterpigny, comment ça se passe avec les voisins? Est-ce que ça les intéresse, ce genre de projet?
Bah écoutez, je pense que ça a suscité forcément beaucoup de questions au départ. Et nous avons fait quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, puisqu'on a eu vraiment un très très bel accueil des villageois, des Sterpiniens, puisque les habitants d'Éterpigny s'appellent les Sterpiniens. Nous avons un très bon accueil des Sterpiniens. Et donc, en avant-première, nous avons fait découvrir toutes les rénovations et tous les travaux. On a fait une petite inauguration, d'ailleurs on n'en a pas encore fait une de manière officielle, mais il y en a une qui nous tenait à cœur, c'est celle-ci, et donc c'était en juin 2018, donc on vient tout le village à venir ici à l'orangerie, au château, pour leur faire voir, parce que dans l'esprit des Sterpiniens, c'est leur château, quelque part. Il y avait une filiation qui s'était opérée avec la baronne, et c'était vraiment quelque chose que beaucoup n'avaient jamais passé le portail. Certains oui, mais beaucoup. Et donc voilà. Et nous, on voulait que tout le monde découvre dans un dimanche après-midi, notre travail. Et voilà. Et c'était, j'espère en tout cas, bien apprécié.
Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour l'avenir finalement?
Écoutez, du travail, hein. Forcément, on n'en manque pas. C'est vrai qu'à côté des chambres d'hôtes, à côté justement des réunions, des réceptions, nous avons également une maison d'hôtes qui peut accueillir une dizaine de personnes. C'est vrai que le travail ne manque pas, ça c'est évident. Mais écoutez, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est pas la prospérité, parce que j'aime pas ce mot, mais du travail, du beau travail, des belles réunions, de jolies et belles collaborations avec nos clients, parce que on estime que le lieu mérite justement de belles réunions, des belles réceptions, voilà, tout simplement.
Arnaud Broutel au Clos Barthélémy à Éterpigny, village qui, avec Dury et Saudemont, a reçu le label Village Patrimoine dont nous parlions aujourd'hui dans La Puce à l'Oreille. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau rendez-vous magazine.
La Puce à l'Oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.